Pourquoi avoir écrit ce livre et pourquoi le publier en ce moment?
Voilà, donc en fait, la publication de ce livre qui sort aujourd'hui, 10 janvier, en librairie, et c'est vrai que c'est une publication, comment dire, pas opportuniste, disons, mais plutôt providentielle, au sens où, depuis des années, j'ai consacré beaucoup de temps à l'étude de l'anthropologie orthodoxe, c'est-à-dire ce que j'ai appelé dans ma grosse thèse la théologie de l'homme. Et donc c'était une préoccupation ancienne. J'avais déjà depuis au moins 10 ans, disons, réfléchi à beaucoup de questions concernant l'anthropologie en général, le mystère de la personne et la question en fait de l'altérité sexuelle, c'est-à-dire le sens du masculin et du féminin dans le cadre de l'anthropologie chrétienne. Donc c'est vrai qu'il y a derrière le livre qui paraît aujourd'hui sous le titre « Regard chrétien sur l'homosexualité », il y a derrière ça une réflexion ancienne, et d'ailleurs dans le livre il y a une réutilisation d'un texte beaucoup plus ancien qui avait été publié par ailleurs. Mais bon, bien sûr que ce livre, nous avons fait l'effort de le réaliser avec la bénédiction de Mgr Joseph et l'aide de beaucoup de personnes d'ailleurs. Nous avons fait l'effort et le choix de le réaliser aujourd'hui parce que nous voulions apporter notre contribution à la réflexion actuelle. Hein, c'est vrai que le gouvernement proposant, comme prévu d'ailleurs, proposant cette réforme de la législation du mariage, nous tous, les chrétiens, les orthodoxes en particulier, mais l'ensemble du monde chrétien, nous sommes dans la situation d'avoir besoin d'une réflexion chrétienne, d'une véritable pensée, disons. Parce que, pour de mon point de vue, qui n'est pas seulement le mien, je pense, l'Église n'est pas seulement le lieu où l'on prie et le lieu où on se sanctifie, mais c'est aussi un lieu où on pense. Donc le fait qu'il y ait une activité chrétienne qui soit une activité de l'ordre de la pensée, c'est vraiment extrêmement important, surtout à notre époque.
Que peuvent nous apporter la Bible et la théologie sur la question de l'homosexualité?
Alors c'est vrai que la Bible et la théologie biblique et patristique, et chrétienne et orthodoxe dans l'ensemble nous fournit des éléments que j'ai essayé sur mes forces d'utiliser dans le livre qui sort aujourd'hui, Réflexion chrétienne sur l'homosexualité. Et les éléments qu'elle nous fournit, à mon avis, sont de deux ou trois sortes. D'une part, il y a effectivement des interdits et des avertissements, mais il n'y a pas que ça. Hein, je pense qu'il faut faire extrêmement attention de ne pas valoriser à l'extrême les interdits ou les avertissements qui sont donnés par l'apôtre Paul, que tout le monde connaît assez bien. La Bible n'est pas un livre qui interdit, n'est pas un livre négatif. La Bible est un livre dans lequel les commandements de Dieu sont des propositions et des projets. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la plupart du temps, ils sont traduits à juste titre en français par le temps grammatical du futur. C'est-à-dire que c'est un projet. Donc, déjà, en tout cas, il n'y a pas que ça. Et puis, il y a dans la Bible, alors ça c'est assez clair pour tout le monde, mais c'est bien de le rappeler, il y a quand même un donné. C'est-à-dire que la Bible est l'histoire d'un événement dans lequel Dieu donne à sa créature humaine la sexualité sous ses deux formes, masculine et féminine. Et ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que cette sexualité masculine et féminine, elle est donnée à l'être humain avant d'être donnée aux autres créatures. C'est-à-dire que dans l'histoire de la création, l'être humain est la première créature à laquelle la sexualité, sous ses deux formes, soit attribuée. Donc quelque chose qui est spécifiquement humain et qui est spécifiquement divin aussi dans le couple homme et femme. Et ça, donc, ça nous aide au sens où c'est ça le donné. Si Dieu avait donné dans la Bible la monosexualité ou même l'homosexualité, bon, ben, on fonctionnerait avec cela. Mais nous fonctionnons avec ce que Dieu nous a donné et nous essayons de consacrer ce don et de le lui rendre dans les meilleures conditions, ce qui est au fond de la vie chrétienne. Donc il y a un donné initial qui est altérosexuel, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas. Vous voyez, la Bible est un texte objective, la tradition biblique était un élément objectif de l'histoire humaine, la tradition ecclésiale et chrétienne est un élément objectif aussi que l'on prend ou que l'on prend pas, disons. Mais en plus, dans la Bible et la théologie chrétienne, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, à partir de ce que je viens de dire, c'est ce que je dirais la vocation. La vocation pour chaque sexe, chaque être humain sexué, et il l'est biologiquement, veut-on, ne veut-on pas, sa vocation de découvrir l'autre. Ça, c'est la grande richesse de la proposition divine qui est faite dans la Bible. Chaque être humain, le plus tôt possible, dès l'enfance, en fait, est appelé à découvrir, à accepter et à aimer l'autre, celui qui est différent. Un garçon doit découvrir ce que c'est qu'une fille, et une fille doit découvrir ce que c'est un garçon. Et derrière cette découverte de l'altérité sexuelle, il y a la découverte de la personne d'autrui. Donc ça, c'est extrêmement important. Dans la Bible, Dieu nous propose de sortir d'une autosuffisance, de sortir d'une monosexualité pour aller justement vers autrui et avec toute la difficulté que ça comporte, l'incompréhensibilité que ça comporte, quelquefois la souffrance que ça comporte, parce qu'il est loin d'être facile d'arriver à s'aimer l'un l'autre, homme et femme.
En quoi le mariage civil homosexuel concerne-t-il les chrétiens ?
Alors c'est vrai qu'apparemment, prédit, au fond, le mariage civil homosexuel ne nous concerne pas, c'est un projet de société, le président de la République avait annoncé ça dans son programme, il fait ce qu'il avait annoncé, il n'y a pas de surprise, au fond ça ne le concerne pas. Mais je pense que ce serait une erreur de penser comme ça, parce que le Christ, s'il nous dit bien que nous ne sommes pas du monde, il nous dit quand même que nous sommes dans le monde. Et nous, les chrétiens que nous sommes des gens qui sont envoyés dans le monde. Nous sommes dans le monde, non pas par accident, non pas d'une manière fortuite, c'est pas un malheur d'être dans le monde, c'est une bénédiction. Je suis dans le monde parce que Dieu m'y envoie, et il m'y envoie à tel moment et à telle époque. Il se trouve que nous, les orthodoxes que nous sommes, moi le premier, eh bien Dieu nous a envoyés dans le monde contemporain de l'année 2012-2013, du 21e siècle, il ne nous a pas envoyés ailleurs. Donc c'est là que nous avons à nous intéresser à ce qui se fait. Et alors, particulièrement, je ne vais pas être trop long, particulièrement la question du mariage civil homosexuel concerne les chrétiens à cause des enfants. Parce que finalement, dans nos paroisses, nous allons voir arriver, et nous voyons déjà arriver d'ailleurs, des enfants qui sont élevés par des couples de même sexe, qu'ils soient homosexuels ou qu'ils soient seulement deux personnes par exemple la famille, deux sœurs qui élèvent un neveu qu'elles ont adopté, rien d'extraordinaire, hein, mais des enfants qui viennent d'un milieu, je dirais, monosexuel, quand il n'est pas homosexuel. Et donc ces enfants, ils arrivent vers l'Église. Mais il va arriver aussi des enfants qui viennent de couples carrément homosexuels et déclarés comme tels, et il va arriver des enfants qui sont le produit des manipulations génétique qu'on fait maintenant, et particulièrement la procréation médicale assistée. Et ils vont arriver, et ils arrivent déjà. Moi, je rencontre déjà des enfants qui sont largement en âge d'être présentés à l'Église. Alors, ils ne seront pas forcément présentés à l'Église, parce que beaucoup de couples homosexuels, au fond, ont une difficulté de relation avec l'Église. Mais j'ai lu dans Libération l'histoire de deux femmes qui forment un couple homosexuel et qui ont demandé le baptême de leur enfant. Donc, nous, si vous voulez, les chrétiens et les orthodoxes en particulier, nous sommes là pour assumer ces personnes, ces enfants, ces jeunes qui viennent de familles monosexuelles ou homosexuelles, et les assumer comme nous assumons tous les êtres humains qui adviennent à l'existence. Parce que, ça c'est important de le dire, aucun être humain n'advient à l'existence sans la permission de Dieu. Ça, faut être clair là-dessus. Il n'y a pas d'être humain si quelqu'un est vivant, c'est que Dieu veut qu'il vive. Et nous savons ça par exemple, la généalogie du Christ, ou les deux généalogies du Christ que nous avons dans le Saint-Évangile. Nous voyons très bien que parmi les ancêtres du Christ, il y a des personnes qui sont arrivées à l'existence dans des circonstances dramatiques. Et nous savons aussi qu'il y a des enfants qui peuvent arriver à l'existence à la suite de viols, à la suite de circonstances tout à fait malheureuses. Mais ces enfants seront acceptés pour le baptême. Donc nous préparons, et nous devons être dignes de ces situations-là, nous préparons à accueillir toutes les personnes qui veulent être baptisées, les enfants, y compris ceux qui sont issus des aberrations humaines.
certains catholiques et protestants se disent homosexuels. Peut-on être homosexuel et se dire orthodoxe?
Moi, je pense que la première façon de répondre à cette question, c'est de répondre oui. Répondre oui, parce que être orthodoxe, c'est principalement confesser la vraie foi, c'est garder la tradition, c'est la transmettre, c'est assister ou participer d'une manière ou d'une autre à la prière publique de l'Église et au culte, prier chez soi, suivant la tradition, vénérer les icônes, etc. Donc on est orthodoxe par la foi et par tout ce que ça implique. Et je tiens à dire ça, parce que je pense qu'il faut toujours commencer par répondre oui aux questions, même quand elles sont un peu difficiles, comme celle-là. Et après ça, c'est vrai que la deuxième partie de la réponse, ce serait mais. Peut-être pas non, mais mais. Mais pourquoi? Parce que quand on parle d'orthodoxie, on ne doit jamais, chez les pères anciens et chez nous, qui sommes héritiers de la tradition des saints-pères, qui nous prétendons là orthodoxes, etc., quand on parle d'orthodoxie, on doit toujours savoir parler également d'orthopraxie. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la confession de la vraie foi qui implique que tu la vis, que tu la mets en pratique, et que ta vie aussi devient, chez les saints, devient l'icône de l'orthodoxie, qu'on va reconnaître à ton mode de vie l'orthodoxie elle-même. Donc c'est pour ça qu'il y a dans la vocation ou l'amour de l'orthodoxie même, il y a un appel, et il y a un appel à donc mettre en pratique et à changer sa vie. J'aime pas conformer, ça fait un peu conformisme, mais iconographier sa propre vie pour qu'elle soit la lumière de cette foi véritable que l'on confesse. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette vocation, non seulement à l'orthodoxie, mais à l'orthopraxie, elle concerne tous les chrétiens. Et que de ce point de vue-là, les homosexuels ou les altérosexuels sont exactement sur le même plan. Il ne faut pas faire trop de différence. Il n'y a quand même pas de problème tellement spécifique. Ici, nous sommes devant la question des passions, nous sommes devant la question des tentations, nous sommes devant la question de l'ascèse et de la conversion pour justement nous intégrer au Christ, assimiler la vie du Christ. Donc qu'on soit altérosexuel ou qu'on soit homosexuel, et on peut avoir des tendances qui ne sont pas cohérentes avec la vie évangélique, et on peut, par amour pour le Christ et par amour pour l'Église, renoncer à ces tendances, les convertir. Par exemple, je pense dans le cas de l'haltérosexualité, il y a des tendances très fortes qui peuvent exister, des tendances à l'adultère, des tendances à la convoitise. Voilà, l'haltérosexuel en question entend cet appel, disons, à renoncer à ces tendances-là pour ne pas sortir du donné biblique. Le donné biblique étant le couple homme-femme, mais quand même monogame, toute tentation vers la polygamie ou l'adultère, quelque chose qui nous fait sortir de ce modèle, de cette proposition divine, autant que l'homosexualité. Donc là, je tiens à dire qu'il faut mettre, parce que j'ai écrit quelque part, orthodoxe ou altérosexuel, même combat, et donc effectivement, les tendances, il y a quand même ça, si on avait le temps, on en parlerait. Il peut y avoir chez une personne une tendance très ancienne, remontant à l'enfance, une tendance homosexuelle objective, et que la personne doit pouvoir gérer. C'est quelquefois loin d'être facile, quelquefois extrêmement douloureux. Il faut comprendre aussi ces choses-là. Mais voilà, il y a un appel, il y a un appel du Christ qui est un appel à la perfection, et qui est un appel à une vie, quand même à une vie chaste, à une vie sans passion, à une vie pure, à une vie sanctifiée, et à une vie dans laquelle la sexualité est transfigurée. C'est ça qui est très, très extrêmement important. Donc cette question de la transfiguration de la sexualité, elle se pose dans tous les cas, et elle se pose bien sûr aussi pour l'homosexuel qui veut vivre dans l'orthodoxie et l'orthopraxie.
Quelle démarche pastorale mettre en œuvre sur cette question?
Alors ça, c'est vrai que l'attitude pastorale est l'attitude fondamentale de l'Église, de nos évêques, de nos prêtres, de nos pères spirituels. Pour nous, la question homosexuelle est d'abord et essentiellement une question qui relève de l'attitude pastorale. Pourquoi? Parce que les homosexuels sont nos frères, sont nos enfants spirituels, sont nos proches, sont nos amis, sont des personnes qui peuvent devenir chrétiennes un jour, qui peuvent devenir orthodoxes un jour. Et donc, vous savez, l'attitude pastorale, le mot pastoral est un mot un peu technique. En fait, c'est l'attitude du Père céleste. Le monde de l'Église est un monde où se manifeste la paternité de Dieu et la fraternité de Dieu et l'amour de Dieu pour tous les hommes. Donc là, je crois qu'il y a, dans le domaine donc pastoral, puisqu'on parle de ça, je pense qu'il y a vraiment trois principes, si je peux dire, que je prends pour moi-même. Le premier principe, c'est l'accueil sans jugement et la rencontre. C'est-à-dire, nous devons avoir une pastorale de la rencontre. On peut parler de pastorale de proximité, mais une pastorale de la rencontre. L'homosexuel est une personne que je rencontre, et que je rencontre parce que Dieu le veut. C'est quelqu'un que Dieu me donne de rencontrer et qu'il me confie et me la confie pour que j'apprenne l'humilité, pour que j'apprenne le non-jugement, pour que j'apprenne à balayer devant ma porte en faisant pénitence de mes propres péchés et éventuellement que je vérifie mes propres tendances homosexuelles. Parce qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions. La tendance homosexuelle, elle peut exister chez tout le monde. Personne ne va lever la main en disant « Moi, je n'ai jamais vu ça. » Voilà, ce sont des orientations de la sexualité chez l'être humain qui peuvent se trouver chez tout le monde. Donc, ça nous rend humbles aussi, ça nous rend modestes, c'est très bien. Voilà, et alors, je pense que justement, cet accueil sans jugement est illustré, je prends un peu plus de temps, là, par un très beau texte de l'apôtre Paul qui dit ça dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 9. Il dit « Avec ceux qui sont sans la loi, je me fais ou je me suis fait ou je me ferai comme si j'étais sans la loi ». Bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi du Christ, mais je me fais comme si j'étais sans la loi afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Je me suis fait faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc en fait, la question qui se pose, c'est la question du salut qu'on a affaire à une personne homosexuelle ou une personne altérosexuelle, c'est la question du salut et la préoccupation pastorale, c'est essentiellement ça, c'est pas d'avoir du monde dans nos églises, c'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement remplir nos locaux de culte, mais c'est essentiellement la question du salut de nos proches, de ceux que nous aimons et même de nos ennemis. Même de nos ennemis, il peut y avoir parmi, dans le mouvement actuel, par exemple, on voit très bien qu'il y a une hostilité à l'Église, une hostilité aux chrétiens, une hostilité aux prêtres en particulier, qui est très très forte, eh bien, ces ennemis de la foi, ces ennemis de ma propre personne, de mon propre ministère de prêtre, eh bien, le Dieu me les confie pour justement me faire faible avec eux et quand même me préoccuper de leur salut. Oui, ça, c'est la préoccupation du salut d'autrui, ça c'est vraiment numéro un. Et ensuite, d'un point de vue plus précis, je crois qu'il faut que nous développions la catéchèse des enfants et des jeunes. Nous avons été, je dis nous, je pense dans notre église, dans nos églises orthodoxes, nous n'avons pas jusqu'à présent consacré beaucoup de temps et beaucoup de patience et beaucoup d'énergie à enseigner nos enfants dans le domaine de la vie corporelle, dans la vie psychique, dans le domaine de l'anthropologie. Nous n'avons pas assez évangélisé la sexualité de nos enfants. Il faut que nous, les prêtres en particulier, nous osions, dans le cadre de la confession, aborder le sujet avec nos jeunes, leur expérience sexuelle étant empirique, étant devant nos yeux, et oser en parler, mais pas d'un point de vue moral ou moralisant, mais d'un point de vue intéressant. Je dirais, par exemple, dans le cadre de la confession, un jeune qui va parler du plaisir solitaire, mais il ne faut pas avoir peur de répondre, d'expliquer qu'effectivement, c'est lié à l'amour de soi, que tant que tu restes prisonnier de cet auto-érotisme, eh bien, tu restes prisonnier d'une forme d'égoïsme, et tu vois, essayer de sortir de ça. Il y a un enseignement à donner qui est très important, parce que la sexualité doit devenir un monde transfiguré, c'est-à-dire un monde de la communion, un monde du partage, un monde eucharistique, même du partage dans le cadre de la fécondité, dans le cadre du mariage. Donc la catéchèse des enfants et des jeunes à ce sujet-là, et le faire rapidement, parce que déjà nous sommes débordés par les manuels scolaires qui sont en circulation, nous sommes déjà débordés par ce qui se passe dans la société. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut faire face à une situation qui va probablement s'imposer, mais devant laquelle nous sommes tout à fait capables de réagir, d'inventer des réponses, d'inventer une attitude vraiment missionnaire à l'égard de nos enfants. Et tout particulièrement, alors ça, j'ose de dire ça, ça peut surprendre, nous devons penser à la préparation du mariage, mais dès l'enfance. Je pense qu'une de nos faiblesses pastorales, justement, actuellement, c'est que nous consacrons quelques séances de préparation au mariage avant que les gens se marient. Ils ont déjà fixé la date, la salle, le repas. Enfin bon, on sait à peu près comment ça peut se passer. Mais ça, si vous voulez, ça n'a pas d'avenir, ces situations-là. L'avenir consiste à anticiper. Et anticiper, ça veut dire parler du mariage aux enfants quand ils sont petits. Dire à un enfant que le projet de sa vie, c'est la vie conjugale. Ou alors, c'est la vie monastique. Mais zapper, comme on le fait trop souvent, à la question, en laissant un enfant se développer comme un enfant du monde, au fond, de manière purement individualiste, sans aucun projet conjugal, ou considérer que le projet conjugal est quelque chose qui va lui faire peur si on lui en parle, ça veut dire que nous sommes mal préparés. Nous devons nous préparer à parler du mariage aux enfants dès qu'ils sont petits, à leur présenter le mariage comme ce que Dieu leur donne, leur propose, comme la base de la société, la structure même de la société, dont il faut quand même dire que maintenant les chrétiens, avec les juifs et les musulmans, nous allons être les seuls gardiens. Plus personne que les croyants maintenant ne va maintenir dans la société ce qui est le fondement même de la société, c'est-à-dire le couple d'Adam et Ève.
Merci mon père. Dans ton royaume, souviens-toi de nous.